BW. Économie et développement. Une usine de production de chocolat qui valorise le cacao localement cultivé et qui offre des perspectives nouvelles aux agriculteurs et aux jeunes dans une région longtemps fragilisée par l'insécurité. On en parle en seconde partie. Cela se passe à l'est de la RDC. Un exemple fort de ce que l'on appelle aujourd'hui l'innovation au service du développement local. Car au-delà de la transformation du cacao, c'est une valeur ajoutée économique et sociale qui est créée grâce à la maîtrise des savoirs, des marques et des brevets. C'est justement de cela qu'il sera question dans la première partie de ce numéro de votre magazine, la propriété intellectuelle et de son rôle stratégique dans la transformation technologique de nos économies à l'ère de la digitalisation. Économie et développement, c'est Rodrigue Guézodier au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La propriété intellectuelle, ce ne sont pas seulement des brevets et des droits d'auteur sur du papier. C'est une arme stratégique pour innover, se démarquer, créer de la valeur et surtout protéger les savoir-faire locaux et les créations issues de nos réalités africaines. Mais à l'ère de la transition digitale, dans un monde où les données circulent vite et où la concurrence est mondiale, comment nos PME peuvent-elles tirer parti de ces outils immatériels ? Comment transformer une idée, un processus, un modèle en actif économique durable ? Et quel rôle pour les États africains dans cet écosystème de l'innovation ? Pour répondre à toutes ces préoccupations, je reçois aujourd'hui Dr Mafini Dosso. Elle est économiste ivoirienne et spécialiste des politiques d'innovation. Une voix engagée et éclairée qui nous aide donc à mieux comprendre les enjeux profonds de la gestion de la propriété intellectuelle en Afrique. Dr Mafini Dosso, bonjour.
Bonjour.
Gestion de la propriété intellectuelle à l'ère de la transition digitale. Concrètement, quels défis nouveaux cette transformation impose-t-elle aux PME africaines ?
Moi, je dirais qu'il y a plusieurs défis. Mais pour rester dans les aspects qui sont essentiels pour les PME, je dirais premièrement que les PME sont de plus en plus connectées, les marchés sont de plus en plus connectés. La deuxième chose, c'est qu'on fait face à un volume de données croissant. On en produit et on en a besoin. Et la troisième chose, enfin, on est face à des innovations qui sont de plus en plus complexes, ça veut dire qu'ils combinent différents aspects. Donc les PME doivent être capables d'embrasser cette complexité et puis bien sûr de pouvoir protéger les différents aspects de cette complexité.
Et on parle beaucoup d'actifs immatériels comme moteur de l'innovation. Alors comment les petites et moyennes entreprises peuvent-elles transformer leur créativité en valeur économique durable?
Je pense qu'il faut préciser une chose aux PME concernant les actifs immatériels, parce que ce sont des choses qui sont intangibles. Donc les PME ne comprennent pas. Une PME standard va avoir quoi comme matériel? Elle va avoir peut-être des équipements, des machines, peut-être une voiture, si tout va bien, et puis peut-être des locaux. Donc la PME va comptabiliser tout ça avec, par exemple, des imprimantes, etc. Mais la PME oublie souvent qu'elle a développé un capital partenarial. Elle a des partenaires qui peuvent être des clients, qui peuvent être des fournisseurs. La PME, c'est aussi un nœud de capital et de compétences et d'expérience humaine. Donc, comment est-ce qu'on capitalise sur ces différents actifs immatériels? Et puis, une PME, c'est aussi un ensemble de processus organisationnels. Donc, maintenant, ce qu'on dit aux PME, c'est attention, il ne suffit plus seulement de compter ce qui est visible. Il faut aussi compter ce qui est immatériel, qui en vérité explique beaucoup plus de la valeur de votre entreprise aujourd'hui. Donc, la créativité, là, j'aime bien la question, c'est comment est-ce que des PME peuvent se saisir, peuvent mieux intégrer dans la comptabilisation de leurs efforts, de leurs actions, ces différents types de capital, c'est-à-dire du capital humain, du capital sociétal, du capital organisationnel, et comment elles peuvent en créer de la valeur économique. Mais si elles ne le comptent pas, elles pourront difficilement d'ailleurs le valoriser.
Selon vous, quelles stratégies doivent adopter les gouvernements africains pour mieux accompagner les entrepreneurs locaux ? Non seulement dans l'identification, mais aussi dans la protection et la valorisation de leurs innovations.
Gouverner un système national d'innovation, ce n'est pas facile. Je pense que les gouvernants ont conçu ce qu'on appelle des programmes nationaux de développement ou des plans nationaux de développement. Les gouvernements ont identifié un certain nombre de priorités. Donc, est-ce qu'on a des innovations? Est-ce qu'on a des pools de PME, de secteurs qui peuvent répondre et aller dans le sens de ces priorités tout en créant de la valeur économique, de la valeur sociétale et puis d'ailleurs de la valeur environnementale? Est-ce qu'on peut avoir une adéquation entre les priorités nationales, locales et les efforts qui sont mis en place pour soutenir des PME, notamment les efforts tournés vers une innovativité et compétitivité plus importante de nos PME? Le match est très important et aussi garder en tête qu'on n'a pas suffisamment de ressources. L'innovation, c'est aussi choisir l'allocation des ressources qu'on va faire entre les différentes priorités sectorielles ou intersectorielles.
Et l'autre chose qui bouleverse aujourd'hui le monde entrepreneurial, c'est bien sûr l'IA. Comment cela peut impacter le développement donc de ces entrepreneurs?
Bon, on entend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle fait partie, on va dire, de ces nouveaux outils technologiques, de ces nouvelles technologies qui peuvent permettre d'accroître la productivité et le rendement. On entend quoi par là? Elles peuvent permettre de booster les revenus des PME, mais elles peuvent permettre aussi aux PME de produire beaucoup plus ou beaucoup mieux avec beaucoup moins de ressources ou en moins de temps. Donc, ce qu'on pense, c'est que l'intelligence artificielle, si on prend en compte l'ensemble des paramètres autour, il faut quand même une infrastructure qui marche, il faut un minimum de ressources pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle dans différents processus. Mais pensons uniquement par exemple au marketing. Est-ce qu'on peut booster ses ventes, améliorer l'expérience client en intégrant les données ou les processus ou les différents avantages qu'offre l'intelligence artificielle? Oui. Mais il y a quand même un effort d'éducation, de sensibilisation et surtout face aux risques que l'intelligence artificielle apporte.
Et pour terminer, quel regard portez-vous sur les synergies possibles entre universités, centres de recherche et secteurs privés dans le développement de projets innovants fondés sur la PI en Afrique de l'Ouest?
Alors là, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur. Comment est-ce qu'on connecte la recherche et l'industrie? En vérité, c'est aussi un sujet qui est très important parce que les chercheurs développent beaucoup de connaissances. Ils développent des solutions, on va dire. Parfois, elles sont théoriques ou plus ou moins applicables. Les industriels ont certains besoins, ils ont certaines problématiques qui sont de très court terme en général. Donc, notre capacité à s'entendre, ça veut dire créer un langage qui soit commun aux chercheurs et aux industriels, c'est déjà une première chose. Mais ensuite, on va toujours arriver dans la même problématique, c'est celle de la priorisation. Comment est-ce qu'on oriente la recherche de sorte à répondre aux priorités qui sont soulevées par les différents besoins industriels? Donc au-delà du langage, il faut aussi un effort de priorisation parce qu'on n'a pas énormément de ressources. Et puis vraiment, il faut qu'on mette en place des cadres. L'OAPI avait déjà travaillé avec plusieurs plateformes nationales justement pour stimuler les échanges entre recherche et industrie. Où on en est de ces initiatives-là et comment est-ce qu'on continue à les soutenir? Est-ce qu'on a des cas de réussite de ces plateformes recherche et industrie ou, comme vous le dites, université et secteur privé? On pourra peut-être en tirer des leçons et puis des apprentissages pour l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des possibilités à la jonction entre le travail universitaire et les secteurs industriels. Et on a beaucoup de potentiel qui est non exploité dans cette zone.
Docteur Mafine Dosso, merci. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste des politiques d'innovation et que vous êtes basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup.
DW.
Direction l'Est de la République démocratique du Congo, où l'innovation locale peut aussi rimer avec relance économique. À Mutwanga, près de Beni, dans le Nord Kivu, une chocolaterie pas comme les autres a vu le jour. Mise en service en 2021, l'usine Virunga transforme sur place le cacao cultivé dans la région, redonnant ainsi de l'espoir à des communautés longtemps éprouvées par l'insécurité. Création de valeur ajoutée, emploi pour les jeunes, structuration des filières agricoles, cette initiative change la donne tout en illustrant l'impact concret que peut avoir la valorisation des ressources locales. Reportage signé Pascal Mwindo Mapenzi, notre correspondant à Beni.
Marie des Anges Kaindo arrive à moto, chargée de fèves de cacao fraîchement récoltées dans son champ, situé à une douzaine de kilomètres de l'usine. À la réception, elle consulte le prix affiché du jour, fait peser sa marchandise et repart avec son paiement en espèces.
Le fait que l'usine soit implantée ici change beaucoup de choses. Nous avons désormais un véritable marché local pour notre cacao qui a enfin une valeur reconnue. Avant, ce n'était pas le cas. Notre cacao valait à peine quelque chose. La fermentation se faisait de manière anarchique, directement dans les plantations, sans aucune norme. Aujourd'hui, tout est pris en charge dans les règles, ici, à l'usine. Fini les ventes à n'importe qui, à des prix dérisoires. Désormais, mais notre production est mieux valorisée et nous en tirons un revenu plus juste.
Créé par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, gestionnaire du parc de Virunga, cette chocolaterie vise une double ambition, stimuler l'économie locale tout en offrant des alternatives concrètes à la jeunesse, souvent tentée par des groupes armés. Neema Avandjisibabi y travaille depuis sa mise en place.
Dans ces zones là où il y a des conflits armés, c'est compliqué pour la jeunesse de se développer. Créer ces entreprises, c'est pour aussi donner le boulot à la jeunesse pour éviter que cette jeunesse puisse adhérer à des groupes armés. Dans les années avant que la chocolaterie n'arrive ici, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas c'est quoi les chocolats. Mais aujourd'hui, même les enfants savent, ah, nous on part au champ, on part récolter les cacao. Dans une semaine, on va avoir le chocolat avec notre cacao qu'on est parti récolter au champ.
Les retombées économiques sont concrètes. Le cacao devient une source de revenus structurée pour les habitants de Mutuanga. Il constitue la matière première pour fabriquer le chocolat et leur permet de se développer, comme témoigne Germaine Mouissa.
Aujourd'hui, grâce aux revenus tirés du cacao, nous pouvons construire des maisons en dur, en briques. Ce n'était pas imaginable il y a encore quelques années. Certains agriculteurs parviennent même à acheter des motos pour faciliter l'évacuation des produits agricoles depuis leurs champs. C'est une vraie transformation dans nos conditions de vie.
Pour garantir la qualité du cacao transformé, les producteurs sont regroupés au sein d'une coopérative agricole. Les fèves livrées doivent être fraîches, puis fermentées selon un protocole strict à l'usine. Vico Kombi, responsable de la coopérative, veille à la bonne exécution du contrat.
L'usine de chocolat de Virunga nous apporte une aide précieuse. Elle transforme notre cacao sur place, ce qui permet à la population locale de consommer du chocolat produit ici même, tout en exportant une partie à l'étranger. Cette initiative a permis de créer de l'emploi, notamment pour les jeunes, et d'offrir aux agriculteurs un débouché stable à un bon prix. Grâce à la qualité de notre cacao, nous recevons également des bonus et des primes. En tant que coopérative, notre mission est de mobiliser les producteurs pour qu'ils livrent non seulement du cacao, mais aussi du café et d'autres matières premières utilisées par l'usine. Nous avons un partenariat exclusif avec Virunga et nous en respectons les termes. Il ne s'agit pas seulement d'un contrat, mais d'un engagement pour le développement de toute notre communauté.
Pendant des années, les cultures de cacao dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont été freinées par l'insécurité. Depuis 2021, le déploiement conjoint des armées congolaises et ougandaises a permis de rétablir un climat plus stable, propice à la relance agricole et à l'entrepreneuriat. Japhet Mapati, le chef de cette entité administrative, s'en réjouit.
Le secteur de Rwenzori s'est stabilisé, et chose qui a permis aux agriculteurs de pouvoir reprendre les activités champêtres. En tout cas, Mutuanga est entré d'évoluer du jour au jour. Il y a des maisons qui sont construites. L'activité économique se porte très bien et l'argent circule. Les entrepreneurs de plusieurs catégories s'installent à Mutuanga et aux alentours.
Outre la chocolaterie, l'ICCN déploie d'autres filières à fort potentiel, presse à huile, savonnerie, achat et exportation de café ou encore extraction de papaïne. Des centaines d'emplois sont ainsi créés autour du parc national de Virunga, illustrant une approche intégrée du développement économique local par la valorisation des ressources naturelles. Pascal Mwindo Mapenzi à Beni pour la Deutsche Welle.
Merci Pascal pour ce sujet sur la chocolaterie qui relance l'économie locale à Mutuanga. C'est avec ce reportage que va se terminer ce numéro d'économie et développement, un numéro que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez d'ailleurs le réécouter en podcast sur notre site www.dw.com/français. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.